Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Eric Manirakiza et Anne Albertson avec vous en direct de Washington. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 11 novembre 2017. D'abord le sommaire.
Le Mali a connu sa semaine la plus meurtrière avec une vingtaine de morts.
Bangui, frappé par des violences ce week-end dans le quartier musulman de PK5, 7 morts. Défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias.
Nous, on doit faire attention. Le journalisme, il est en danger.
Vous suivrez le compte-rendu de Issa Napon à Ouagadougou.
Et puis, vive réaction des anciens patrons du renseignement américain sur le refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence russe dans les élections américaines.
Et ne manquez pas votre page d'espoir ainsi que l'actualité économique en Afrique. D'abord, le journal.
Des enquêteurs américains se sont rendus hier dans le village de Tongo Tongo au Niger, où 4 soldats américains ont été tués le 4 octobre dans une embuscade tendue par des islamistes armés. D'après le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, cette mission a permis aux enquêteurs de rassembler des informations et de déterminer les faits liés à l'embuscade. Cette enquête est dirigée par le général Roger Clouthier, chef d'état-major d'AFRICOM. Les conclusions ne seront pas publiées avant janvier 2018, a prévenu le Pentagone la semaine dernière.
L'opposition togolaise a appelé hier soir à 3 nouvelles journées de manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé. Elles sont prévues jeudi, vendredi et samedi dans tout le Togo, d'après Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition à l'initiative des manifestations. Les chefs de l'opposition avaient prévu de se rendre à Sokodé, Bafilo et Mango, mais le gouvernement a prévenu de ne pas baisser les bras. Ces 3 villes du Nord ont été le théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis fin août. Vendredi, le président Gnassingbé a, devant des soldats, accusé l'opposition d'être responsable des violences. 16 personnes ont été tuées en 2 mois, dont des adolescents et 2 militaires lynchés par la foule. L'opposition organise des marches quasi hebdomadaires pour demander la démission du président Gnassingbé à la tête du Togo depuis 2005. Il a succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans.
En Centrafrique, week-end meurtrier à Bangui, au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans des violences dans le quartier musulman de la capitale. Les précisions de Bagassi Koura.
4 personnes sont mortes et une vingtaine blessées samedi soir dans une attaque à la grenade contre un café de Bangui, un incident suivi par des représailles qui ont fait 3 morts. Ce sont là les premières violences significatives dans la capitale centrafricaine depuis début 2017. L'attaque par des hommes non identifiés contre ce café où jouait un célèbre chanteur local s'est produite au PK5, un quartier qui a longtemps été l'épicentre des violences communautaires qui ont secoué Bangui ces dernières années. Le café visé, au carrefour de la paix, c'est son nom, se situe à la limite des 3e et 5e arrondissements dans le quartier musulman poumon commercial de la ville, selon le ministre de la Sécurité publique Henri Wanze, qui s'est exprimé dimanche à la radio d'État. 4 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées. Une enquête officielle a été ouverte.
Bagassi Koura, catastrophe ferroviaire en RDC. Un accident de train de marchandises transportant des matières inflammables a tué 8 à 33 passagers clandestins hier dans le sud du pays. Yacouba Ouedraogo.
Jusque-là, il y a eu 8 morts et plusieurs blessés. Le bilan pourrait être beaucoup plus important, a déclaré à l'AFP Jean-Marie Tshizainga, ministre des Mines et de l'Émergence de la classe moyenne de la province de Lualaba, dont le chef-lieu est Kolwezi. Sur son site internet, Okapi parle de 33 tués, plusieurs blessés et brûlés dans l'accident de ce train qui allait de Lubumbashi à Luena dans la région minière du Katanga. Les faits se sont produits à Biofoué, une gare située à près de 30 km de Luboudi, dans la province du Lualaba, subdivision de l'immense Katanga. Le convoi transportait 13 wagons, dont des citernes d'essence. Les passagers se trouvaient à bord de ce train de marchandises après être montés illégalement pour se déplacer. Le 22 avril 2014, un train de marchandises transportant plusieurs centaines de personnes avait également déraillé à hauteur de la localité de Katongola.
RDC toujours à Lubumbashi, la police a installé son QG à Machipicha pour contenir les manifestations répétitives contre le régime. Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiongou, l'a annoncé en marge d'une grande parade de toutes les unités de la police à Machipicha. Certains habitants n'apprécient pas cette présence policière et promettent de la braver. Mercredi 15 novembre, la Lucha, un mouvement citoyen, a appelé à une journée de manifestation contre le président Joseph Kabila. Cette information nous a été transmise par notre correspondant Narval Mabila.
Et les électeurs de Guinée équatoriale étaient appelés aux urnes hier dimanche pour des élections législatives, sénatoriales et municipales. Mais déjà hier soir, l'opposition criait à la fraude. Des responsables de l'opposition ont dénoncé de multiples fraudes et irrégularités avec des arrestations de leurs militants qui avaient dénoncé ces situations ou tenté de s'y opposer. Un leader de l'opposition a affirmé que près de 80% des assesseurs de son parti ont été expulsés des bureaux et n'ont pas pu surveiller le vote. Trois militants ont également été interpellés après avoir protesté contre des irrégularités.
Selon les médias d'État, le vote s'est déroulé sans incident et dans de bonnes conditions. Quelques 300 000 électeurs équato-guinéens étaient appelés à voter dans ce pays où le multipartisme a été introduit en 1991, mais dirigé sans partage depuis 1979 par Teodoro Obiang Nguema, 74 ans, recordman de longévité pour un président en Afrique. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui détient depuis des décennies tous les rouages du pouvoir, est assuré de l'emporter, mais l'opposition espère cependant faire son entrée au Parlement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, les déclarations du président Donald Trump sur l'implication russe dans les élections américaines suscitent de vives critiques. Interrogé par des journalistes au Vietnam, il a avoué qu'il croyait à la sincérité de son homologue Vladimir Poutine. N'est-ce pas, Bagasikour?
La sortie de Donald Trump dédouanant son homologue russe a fait réagir de façon virulente les anciens patrons de renseignement américains sous l'administration précédente. Questionnés samedi après sa rencontre avec le président russe sur les accusations d'ingérence de Moscou dans le scrutin qu'il a porté au pouvoir, le président américain avait mis en avant les dénégations de Vladimir Poutine et critiqué les agences de renseignement américains. On vous a dit que ces 17 agences, eh bien ces trois, l'une d'elles c'est Brennan, l'autre c'est Machin, ce sont des vendus, avait-il répondu. Donald Trump devrait avoir honte d'avoir traité de vendus les anciens chefs des services de renseignement qui ont conclu en janvier que la Russie avait bien interféré dans les élections américaines, a estimé dimanche l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Les propos de M. Trump ont aussi choqué le sénateur républicain John McCain, qui a rappelé samedi la carrière passée du président russe au sein des services de renseignement russes. Pour sa part, M. Clapper s'est inquiété du refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence de la Russie dans le scrutin présidentiel de 2016.
Toujours aux États-Unis, le FBI va publier ses statistiques annuelles sur les crimes haineux aux États-Unis. Donald Trump rencontre aujourd'hui son homologue philippin Rodrigo Duterte pour l'ultime rendez-vous sensible de son marathon asiatique. Les ONG s'insurgent contre les violations des droits de l'homme de la très controversée guerre contre la drogue.
Et plus de 20 pays de l'Union européenne vont signifier aujourd'hui leur intention de s'engager dans une coopération militaire renforcée. Ils envisagent des objectifs et projets ambitieux censés faire avancer l'Europe et de la défense. Ils doivent signer un ensemble de 20 engagements pour développer des programmes d'armement ou faciliter la mise sur pied d'opérations extérieures.
La France commémore le deuxième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Ils avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés aux abords d'un stade, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concert du Bataclan.
Tremblement de terre dans le nord-est de l'Irak. Au moins 135 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées. Ce séisme a également touché des régions frontalières avec l'Iran et la Turquie.
Le premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé qu'il allait très bientôt rentrer dans son pays. Il a assuré être libre, en Arabie Saoudite. Sa démission surprise annoncée à Riyad a plongé le Liban dans une nouvelle crise politique. Dans un entretien hier accordé à une chaîne de télévision libanaise, The Future, M. Hariri a une nouvelle fois appelé l'Iran à ne pas s'ingérer dans les affaires du Liban et des pays arabes. Il s'agit de sa première prise de position publique depuis sa démission le 4 novembre dernier. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est avec Arzuma Compaoré.
Areva veut assurer la viabilité de ses deux filiales au Niger grâce à des mesures drastiques, dont plusieurs centaines de licenciements en 2018. L'objectif pour les conseils d'administration de Cominac et de Somaïr, réaliser l'équivalent de 60 milliards de francs CFA d'économies chaque année. Le Niger est le quatrième producteur d'uranium au monde. Areva y exploite l'uranium depuis près de 50 ans. Venez investir, venez créer des entreprises au Burkina, a lancé M. Kaba Tiba, premier ministre burkinabé à l'ouverture des journées de la promotion économique et commerciale du Burkina en Côte d'Ivoire. Avec des importations estimées à 287 millions de dollars en 2016, la Côte d'Ivoire se positionne comme le deuxième fournisseur du Burkina après la Chine. Tandis qu'Abidjan est le quatrième client du Burkina avec des exportations estimées à 107,7 millions de dollars, quelques 3 millions de burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est la guerre entre les opérateurs de transfert d'argent. Le Sénégalais Wari et le Luxembourgeois Millicom ont chacun entamé une procédure d'arbitrage auprès de la Cour internationale de la Chambre de commerce internationale de Paris. L'annulation du contrat de vente de Tigo Sénégal conclu le 7 février avec Wari serait à l'origine de la querelle. Une affaire qui intervient alors que Millicom se retire progressivement de l'Afrique. Sa filiale en RD Congo a déjà été cédée en 2016 à Orange pour 160 millions de dollars.
Et sans transition, nous passons à votre page sportive. Ce matin, c'est avec Nicolas Pinot. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Nous commençons par le football. Dernier match sans enjeu dans la zone Afrique pour les qualifications au Mondial 2018.
Oui, le Congo et l'Ouganda, déjà éliminés, ont terminé leur campagne par un match nul, un but partout hier à Brazzaville. Marvin Baudry avait ouvert le score pour les Diables Rouges, tandis que Milton Karissa a vite égalisé pour les Grues. Score final, un but partout. Le Congo termine avec seulement 2 points et sans la moindre victoire. Le Ghana, déjà éliminé, a été tenu en échec un but partout par l'Égypte dimanche à Kumasi lors d'un match également sans enjeu. Le Ghana, qui avait disputé les 3 dernières Coupes du Monde, voulait terminer sur une bonne note devant son public, mais Mahmoud Abdelrazak ouvre le score pour les Pharaons après l'heure de jeu. L'Égypte sans sa star Mohamed Salah n'aura pas tenu son avantage très longtemps puisque Edwin Jassy égalise 3 minutes plus tard. Le Ghana termine ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 avec aucune victoire en 3 matchs à domicile. On rappelle que le Sénégal, le Maroc et la Tunisie sont les 3 derniers qualifiés africains pour la Coupe du Monde, sans oublier l'Égypte et le Nigeria.
Et en Europe, Nicolas, nous avons déjà 2 nouveaux qualifiés.
La Suisse s'est qualifiée dimanche pour sa 4e Coupe du Monde d'affilée après son match nul 0-0 face à l'Irlande du Nord. Même score pour la Croatie qui s'est qualifiée en allant décrocher ce match nul en Grèce. Un score largement suffisant pour décrocher le billet pour le Mondial après la victoire des Croates 4-1 à l'aller.
Un mot sur la série de matchs amicaux hier aussi sur le continent, Nicolas.
Le Bénin a été tenu en échec par la Tanzanie, un but partout hier au stade de l'amitié de Cotonou. C'est le capitaine béninois Stéphane Sessegnon qui avait ouvert le score sur pénalty. Au retour des vestiaires, les Taifa Stars se montraient plus dangereux et Elias Maghouri égalisait à la 50e minute de jeu. Les autres résultats, le Zimbabwe est battu 3-1 par la Namibie, match nul un but partout entre les Comores et Madagascar. Et puis le carton du week-end, le Togo qui domine 6-0 l'île Maurice, a noté le quadruplé de là-bas.
Et le Rwanda qualifié pour le CHAN 2018.
Les Amavubi qui n'avaient besoin que d'un match nul après leur victoire à l'aller 3-2 ont fait le strict nécessaire pour décrocher ce dernier billet qualificatif, un match nul 0-0. Les deux équipes disputaient ce match de repêchage à la suite du renoncement de l'Égypte.
Avant de nous quitter, Nicolas, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Détroit a dompté Miami dimanche 112-103. Après 3 quarts temps serrés, Détroit a fait la différence dans le dernier quart d'heure pour déverrouiller un nouveau succès à domicile. Boston, leader de la conférence Est, a signé une 12e victoire d'affilée en s'imposant face à Toronto 95-94.
C'était les sports de Nicolas Pinault. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Première destination, le Sahel, précisément au Mali. La semaine écoulée a été la plus meurtrière. Le bilan s'élève à une vingtaine de morts, dont une dizaine de civils. Les militaires étaient particulièrement les plus visés. Des voix donc s'élèvent pour que le gouvernement de Bamako prenne des mesures appropriées pour contenir ces tueries en cascade. Suivez le reportage de Kassim Traoré.
Le Mali traverse une période d'insécurité sans pareil. L'ensemble des régions du pays subissent des attaques et des braquages. La ville de Kidal n'est pas épargnée. Irissa Agaratoulou, notable de Kidal.
Les gens ont beaucoup parlé de l'insécurité dans la ville de Kidal aujourd'hui, qui se passe toutes les nuits. Alors il n'est pas rare de voir des populations se plaindre d'avoir été violées physiquement et d'avoir constaté que leur domicile est violé nuitamment par des hommes. Ça, les gens s'en ont plein et ils demandent avec acuité que les gens chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens puissent s'émouvoir un peu plus.
En une semaine, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées dans différentes attaques au centre et au nord du pays. Makan Konaté, communicateur.
Soit c'est des véhicules qui sortent sur des mines, soit c'est des morts et souvent de façon très sauvage.
On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a une arme pointée sur toi. Ce n'est pas facile. Tu fais ce que la personne veut. Mais quand vous avez les deux des armes pointées les uns sur les autres, en ce moment, on peut négocier. Eux, ils viennent tuer nos soldats. Et c'est de la manière la plus lâche, parce que c'est des gens qui agissent par système de guérilla. Il va falloir que l'armée malienne également agisse de la même manière.
L'insécurité que l'État avait qualifiée de résiduelle est devenue quotidienne, voire chronique.
Le premier responsable de ce pays, c'est le président de la République, par Éric Cocher, son gouvernement. Ils sont là pour servir le peuple malien. C'est leur mission.
Il y a la part de la population aussi, c'est-à-dire que la population soit aux côtés des forces de sécurité du Mali, en les informant à temps, essayer de dénoncer les coupables ou je dirais les soupçonner à leur côté pour qu'ils puissent mener les investigations.
L'enseignant et chercheur Babou Koulibaly trouve qu'il est temps que l'État malien prenne ses responsabilités en matière de sécurité.
Les différentes théories sont dues effectivement aux incapacités politiques de l'État malien de pouvoir définir des lignes directives pour les forces étrangères. Je pense qu'il y a un problème de déficit politique parce qu'il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Il est très difficile pour un pays de confier sa sécurité à une force étrangère.
Aujourd'hui, nul n'ignore la vaste campagne de communication engagée par les groupes djihadistes depuis la mise en place du G5 Sahel. Général Didier Dako, commandant de la force conjointe du G5 Sahel.
Nous sommes à Sévaré ici depuis le mois d'août et il y a le poste de commandement du fuseau centre qui est également en place. Mais il y a encore beaucoup qui reste à faire pour opérationnaliser davantage la force conjointe. Nous attendons un appui politique fondamentalement, d'abord une reconnaissance de la force et puis un accompagnement en termes d'équipement, en termes de formation et en termes de développement capacitaire en quelque sorte.
En entendant de voir des jours meilleurs, les attaques simultanées contre les positions de l'armée malienne et le convoi de l'AMUNISMA se poursuivent. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Des journalistes africains sont réunis à Ouagadougou à l'occasion du dernier Festival international de la liberté de la presse FILEP. Les participants échangent sur la responsabilité et le rôle des journalistes face à la menace terroriste et aux défis posés par l'insécurité de façon globale. Ces assises ont été facilitées par le Centre national de presse Norbert Nzongo. À Ouagadougou, les détails de notre correspondant Issa Napon.
À cette 7e rencontre annuelle de la liberté d'expression et de la presse, les participants au FILEP ont pendant 4 jours à Ouagadougou épluché les défis sécuritaires, notamment les risques liés au traitement de l'information sur le phénomène du terrorisme. Pour le promoteur de la radio privée du centre nord burkinabé, Kaya FM, le journaliste se retrouve souvent entre le marteau et l'enclume, surtout quand il est question de terrorisme, pointe Madi Ouedraogo.
Le journaliste qui va dire aujourd'hui qu'il a retrouvé Diko et qu'il a parlé à Diko, je pense qu'on a plus besoin de lui
que Dico. On ne va plus aller à l'essentiel, mais d'abord, on va s'acharner sur le journaliste d'abord, pour beaucoup de questions. Et maintenant, moi, je dis, le journaliste qui va parler du terrorisme en mal, le terroriste va te chercher, il va te retrouver. Est-ce que la radio est gardée? Est-ce qu'on a les moyens pour payer pour que la sécurité garde la radio? Alors que la télévision nationale, comme la radio nationale, est gardée. Donc nous, on doit faire attention. Le journaliste, il est en danger.
Le vrai rôle des journalistes reste incompris jusque dans les cercles de dirigeants, dénonce le Congolais Stanislas Nkundié, président de l'Union des syndicats des journalistes d'Afrique centrale.
Le journaliste, il a cette capacité d'obtenir l'information que les services de renseignement ne peuvent pas obtenir. Et lorsque vous les trouvez, malheureusement, on vous compare à un terroriste. On pense que vous avez des liens avec les terroristes parce que vous avez appris ou vous avez découvert ce qu'eux ne savent pas ou ce qu'eux n'ont pas été en mesure de trouver comme information. Et nous devenons cibles des forces de sécurité au lieu d'être des partenaires de ces forces parce que s'ils nous prenaient comme des partenaires, ça pourrait leur faciliter le travail de renseignement, d'investigation.
Savoir rester objectif dans son travail en donnant des pistes ou alors en dénonçant les bavures qui surviennent du fait du contre-terrorisme est inhérent au rôle des journalistes afin de protéger l'état des droits et la démocratie, soutient Gezouma Sanogo. Il est le président de l'influente association des journalistes du Burkina.
Il y a une dimension non militaire. C'est là-bas qu'on peut situer les journalistes. Mais comme il faut collecter l'information pour faire son travail, les journalistes côtoient les militaires. En fait, ils sont sur le même terrain. C'est pour essayer de comprendre même les phénomènes. Et aussi montrer en fait la réalité du terrain. Est-ce qu'on ne viole pas les droits des populations? Est-ce qu'il n'y a pas de brimades vis-à-vis des populations? Maintenant, les journalistes font partie d'une problématique sur le long terme. Ça intègre la question de démocratie, ça intègre la question du développement. Vous ne pouvez pas espérer développer un pays si les journalistes ne peuvent pas faire vraiment leur travail.
Venus d'une trentaine de pays africains, pour la plupart, les participants ont aussi débattu du radicalisme et de l'état actuel de la liberté de la presse sur le continent. L'occasion également de rendre hommage aux hommes de médias ayant marqué des luttes pour cette cause, à l'image du journaliste Norbert Zongo qui en a payé le prix suprême. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a interdit aux personnes de sexe féminin de battre le tambour. Le décret du 20 octobre dernier leur permet toutefois d'exhiber les danses folkloriques féminines pour accompagner le tambour. Cependant, toute formation animant le tambour doit avoir au préalable l'autorisation du ministère de l'Art et de la Culture. Les contrevenants à ce décret sont passibles d'amendes pouvant atteindre 1 million de francs burundais et une suspension de 6 mois. Des tambourinaires vivant de ce métier indiquent que ces mesures viennent compliquer leur vie déjà difficile. À Bujumbura, nous retrouvons la correspondance de Christophe Nkurunziza.
Normalement, dans toutes les cérémonies de mariage, de naissance, de dot, de remise de diplôme ou toute festivité à caractère social, le tambour burundais, reconnu internationalement comme un patrimoine international, était toujours présent pour agrémenter les cérémonies. Mais depuis le mois d'octobre dernier, un décret présidentiel définit les rôles, l'esprit et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, surtout les femmes qui ne doivent plus aujourd'hui jouer le tambour. Et à ceux qui expliquent que ce décret est une exclusion des filles et femmes, voici les réponses de cette femme.
Tout le monde est égal devant la loi, les hommes et les femmes. Faut pas briser les tabous. Sinon, demain, on va dire qu'un homme va mettre au monde. Il y a des choses qui sont contre nature. Il y a un caractère sacré qui est là.
D'autres femmes qui a joué au tambour à l'école secondaire estiment que ce décret présidentiel porte atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois où on peut aimer le tambour. Par exemple, moi, je suis une femme et j'aime bien le tambour. Ce serait vraiment très difficile pour moi de comprendre que je ne dois pas le faire parce que je suis une fille, parce que je suis une femme. Il y a une discrimination basée sur le genre. Nous sommes dans un monde où il faut respecter les droits de tout un chacun, des hommes et des femmes. Et surtout dans un monde où il faut vraiment améliorer les conditions de vie des femmes. Pourquoi ne pas penser que ça aussi c'est une discrimination?
Cette autre femme affirme que le décret présidentiel qui interdit au sexe féminin de battre le tambour est contraire à la Constitution.
De mon point de vue, je me dis que c'est une discrimination. Aujourd'hui, c'est la loi qui vient sur le tambour, mais je me dis que demain, il y a d'autres lois qui vont venir, qui vont aussi continuer à discriminer la femme burundaise. Alors que la constitution burundaise stipule que nous sommes tous égaux devant la loi.
Ce jeune célibataire qui a joué à l'âge de 9 ans et qui l'a pratiqué à l'université du Burundi affirme que la mesure en soi est bonne si les autorités burundaises ne veulent pas faire du profit avec ce décret, sinon ça serait de l'exclusion.
Si on a décrété la loi pour
en profiter, là ça serait pur. Le tambour devrait garder la sacrée signification. Si derrière ça, il y aurait un certain profit, dans ce sens, ça serait une exclusion.
Selon toujours le décret présidentiel, tout organisateur du spectacle avec le tambour burundais verse au trésor une redevance d'un montant de plus de 500 000 francs burundais par exhibition. Mais tous les groupes de tambourinaires qui évoluent à l'extérieur du pays doivent verser au trésor public une redevance équivalente à 2 000 $ américains par exhibition. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Purge anti-corruption sans précédent en Arabie Saoudite. Plus de 200 personnes ont été arrêtées, notamment des princes, ministres et hommes d'affaires. Après interrogatoire, 7 ont été relâchés sans inculpation. Cette opération coup de poing fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Les sommes concernées par ces malversations atteignent 100 milliards de dollars sur quelques dizaines d'années. Pour analyse, nous avons joint à Paris le directeur adjoint et chercheur auprès de l'IRIS, Didier Billon.
Non, en réalité, ce qui me surprend, c'est la brutalité de cette opération et l'ampleur incontestable de cette vague de purge et d'arrestation. Parce que, en réalité, je ne suis pas du tout convaincu par les arguments qui sont utilisés par le pouvoir saoudien et notamment par Mohamed Ben Salman, qui prend prétexte d'affaires de corruption pour procéder à ses arrestations ou à ses assignations à résidence. En réalité, quand on connaît un petit peu le système saoudien, on peut aisément savoir que la corruption est quasiment un principe de fonctionnement pour une raison très simple, c'est qu'il y a une sorte d'osmose complète qui existe entre les responsables économiques et les responsables politiques. C'est-à-dire que la plupart des grands chefs d'entreprise sont par ailleurs membres des familles princières. En ce sens, il y a toujours cette proximité entre la sphère économique et la sphère politique en Arabie Saoudite. Et donc, quand le prince héritier, Mohamed Ben Salman, accuse ceux qu'il a fait arrêter de corruption, je pense qu'en réalité, c'est pour éviter de dire la vérité, mais c'est bien une raison politique.
Cette évolution politique va-t-elle renforcer le pouvoir du prince héritier ?
Nous savons que ce jeune prince, très ambitieux, et qui est promis à occuper, on ne sait pas quand, mais à occuper la place de son papa, dans des délais qui seront à déterminer, cherche aujourd'hui à resserrer le dispositif de décision politique et donc à écarter tous ceux qui pourraient être des concurrents ou tous ceux qui pourraient s'opposer à lui. Par contre, ce qui est clair, c'est la première fois qu'une vague d'arrestation ou d'assignation à résidence d'une telle ampleur a lieu dans le royaume saoudien, et ce, de façon publique. Dans l'histoire du royaume saoudien, il y a eu à plusieurs reprises des arrestations, des mises à l'écart, mais pas de façon publique et pas de façon si massive. Donc là, ça signifie que nous sommes véritablement à un tournant de l'histoire politique de l'Arabie saoudite.
Et même en Arabie saoudite, la population n'en parle pas non plus à la presse.
Bien évidemment, parce que nous sommes dans un système politique où les minorités, où les oppositions ne peuvent pas s'exprimer. Il est évident que la presse saoudienne, par exemple, est une presse qui n'est pas indépendante. C'est une presse qui est totalement liée aux structures de pouvoir. Nous savons par ailleurs que la société civile, ce qu'on appelle la société civile en Arabie Saoudite, eh bien, elle existe, mais elle a quand même les pires difficultés à s'exprimer et à s'organiser surtout. Donc dans ce type de situation, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas ou infiniment peu de réactions. Je crois que par ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, ce jeune prince très ambitieux, très impulsif aussi, a la volonté de moderniser le régime saoudien. Donc là, il y a une contradiction parce qu'à la fois, il utilise de vieilles méthodes assez répressives pour écarter ses éventuels opposants et en même temps, je pense qu'il est animé d'une volonté de moderniser le royaume. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme l'Arabie saoudite, qui est un pays important sur la scène régionale, puisse parvenir à se moderniser réellement sans faire appel aux sources vives du pays.
Didier Billon, spécialiste de l'Arabie saoudite et chercheur auprès de l'IRIS à Paris. Le monde. Voilà, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manelakiza à Washington revient tout à l'heure pour une autre édition. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.